7h27, on sait qu'il y aura une commission parlementaire à Québec pour étudier le phénomène des pesticides. Et parmi les gens qui vont, les groupes en fait qui vont présenter des mémoires, la Fondation David Suzuki a préparé le sien et ça porte justement sur les liens des pesticides et de certaines maladies qu'on connaît, le Parkinson entre autres, et peut-être aussi l'autisme. Ça semble un peu plus flou, mais en tout cas pour le Parkinson, ça fait des années que plusieurs pointent dans cette direction. J'en parle avec Louise Hénaud-Étier, qui est biologiste, docteur en sciences de l'environnement et chef des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki. Madame Hénaud-Étier, bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, si vous aviez à me résumer ce que la science dit sur les liens entre les pesticides et certaines maladies, ce serait quoi?
La science est formelle, que ce soit des revues de littérature française ou ontarienne. Dans toutes les méta-analyses, on voit que les pesticides ont soit un impact négatif sur la santé ou soit pas d'impact, mais dans de rares cas. Et on a publié deux nouvelles études aujourd'hui même qui mettent en cause les liens entre les pesticides et le Parkinson, qui est des causes très bien établies, c'est très solide, il faut maintenant agir à ce niveau-là. Et comme vous le disiez, au niveau de l'autisme, on vient de publier aussi simultanément une nouvelle étude qui démontre qu'il y a des liens fort inquiétants dans plusieurs recherches scientifiques et qu'on en est un peu à l'état des connaissances qu'on avait avec le Parkinson il y a quelques décennies. Alors, est-ce qu'on va attendre avant d'intervenir aussi longtemps que ce qu'on a fait pour le Parkinson?
Mais est-ce que ça veut dire qu'une personne est prédisposée et le fait d'être exposé donc à des pesticides, ça peut être comme l'élément déclencheur?
Oui, tout à fait. Donc, dans le cas du Parkinson, on dit que 10 jours d'exposition par année dans le milieu professionnel augmente le risque de 2,5 fois. Et si vous êtes exposé quand vous êtes enfant et que vous êtes réexposé ensuite en tant qu'adulte, ben, ça augmente de 6 fois le risque de développer la maladie de Parkinson. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Et ces liens-là sont très, très forts et bien connus.
OK. Et dans le cas de l'autisme, qu'est-ce que vous savez?
Dans le cas de l'autisme, on sait qu'il y a plusieurs dizaines d'études qui démontrent des corrélations épidémiologiques, c'est-à-dire qu'on a étudié des populations qui habitaient soit près de fermes ou soit qu'on a mesuré la quantité de pesticides dans leurs urines. Et on a vu une corrélation entre les mères qui s'exposent soit avant la conception, durant la grossesse ou même les jeunes enfants qui sont exposés aux pesticides, ça entraîne un plus grand risque de développement de l'autisme. Donc, dans le cas de la mère, c'est évidemment pour son enfant à naître. Mais donc, tant que le développement du cerveau n'est pas terminé, une exposition à des pesticides neurotoxiques peut altérer le développement normal et ça peut être une des causes de l'autisme.
Mais si vous me parlez de pesticides neurotoxiques, pourriez-vous être un peu plus précise? On parle de quoi? Quelle utilisation de pesticides?
En fait, les insecticides sont généralement faits pour tuer des insectes en altérant le fonctionnement de leurs neurones. Donc, ils vont interférer avec les messages chimiques que les neurones s'envoient entre eux et ça cause des tremblements, la paralysie, la mort de ces insectes-là. Chez les humains, on a exactement les mêmes molécules chimiques, les mêmes récepteurs dans nos neurones. Comme on est plus gros, on ne meurt pas instantanément de ces expositions-là. Et dans les tests pour mettre les pesticides en marché, on regarde des évaluations relativement grossières. C'est-à-dire qu'on regarde est-ce que le sujet meurt, est-ce que le sujet perd du poids, est-ce que le sujet a un comportement complètement erratique ou des tremblements. Et si les premiers tests préliminaires ne donnent pas de signes avant-coureurs de problématiques, on les autorise pour la mise en marché. Dans le cas de l'autisme, c'est un problème qui est beaucoup plus difficile à détecter, c'est beaucoup plus subtil. Et ça prendrait des tests avancés de neurotoxicité. Ce sont des tests qui existent et qui sont régis, qui sont encadrés. C'est simplement qu'on ne les oblige pas pour l'ensemble des insecticides qui sont mis en marché. Donc, on autorise la mise en marché de produits qui peuvent perturber le fonctionnement normal des neurones. Et on dit qu'à la grosseur qu'on a, les mammifères, les humains, on est capable de détoxifier tout ça et que ça ne causera pas de problème de santé. Mais ce qu'on se rend compte dans la littérature scientifique, c'est que même des doses infiniment petites, à des moments bien précis, des fenêtres de vulnérabilité du développement du cerveau, que ce soit chez la mère qui n'est même pas encore tombée enceinte ou chez la femme enceinte, ça peut engendrer éventuellement l'autisme. Donc, il y a énormément d'études scientifiques qui montrent une corrélation entre les deux.
Mais officiellement, Santé Canada dit toujours un peu la même chose, puis vous venez de le mentionner, c'est que les quantités sont trop faibles et qu'il n'y a pas de Quand on les autorise, en fait, ces produits-là, c'est que les études montrent qu'il n'y a pas de danger réel pour les humains. Vous êtes en train de me dire le contraire, là.
Ce que Santé Canada ne fait pas pour l'ensemble des pesticides neurotoxiques, c'est de requérir les tests avancés de neurotoxicité. Donc, ce qu'ils voient dans les premiers tests, là, les tests de toxicité aiguë, les tests de toxicité chronique, ils ne voient pas de symptômes particuliers qui leur disent qu'ils devraient faire les tests avancés de neurotoxicité. Donc, dans ce cas-là, ils ne font pas les tests avancés. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que sans des tests plus poussé, il est impossible de déceler les problématiques de santé du neurodéveloppement que les pesticides peuvent entraîner. Donc, effectivement, ce que Santé Canada dit, c'est vrai, ils ne voient pas de problème avec ça parce qu'ils ne font pas les tests pour voir les problèmes dont on parle. Et quand on parle de l'autisme, on parle aussi de d'autres problèmes de santé qui se répandent de plus en plus dans la population et qui peuvent être corrélés avec les pesticides, que ce soit les déficits d'attention avec hyperactivité, que ce soit un déficit cognitif. Il y a une multitude de problèmes de santé neurodéveloppementale qui sont en forte croissance à l'échelle internationale, dont l'autisme. Et plusieurs scientifiques sonnent des clochettes d'alarme pour avertir le gouvernement qu'ils doivent user de plus de précautions et éviter la mise en marché de produits qui peuvent être toxiques pour le développement normal du cerveau. Et nous, ce qu'on demande, ce qu'on exige, c'est qu'il y ait des tests avancés de neurotoxicité qui soient réalisés pour l'ensemble des produits qui interfèrent faire avec le signalement normal des neurones et aussi les produits qui interfèrent avec les hormones dans le corps, parce qu'on sait que même à des doses infinitésimales, ça peut affecter le développement normal du cerveau.
Mais là, je vais poser une question qui va vous paraître un peu bizarre. Si les tests existent, pourquoi Santé Canada ne les fait pas?
Le protocole de test existe. Santé Canada ne l'exige pas de la part des entreprises qui mettent ces produits-là en marché. Donc, c'est une excellente question. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'exigent pas? Et c'est ça qu'il faut demander au gouvernement fédéral. Et entre-temps, avec la commission provinciale qui se déroule, on demande au gouvernement provincial de faire preuve du principe de précaution et de restreindre l'utilisation le plus possible de ces pesticides-là pour mettre la population à l'abri contre des problématiques de santé que Santé Canada n'a pas correctement évaluées en mettant en marché plusieurs pesticides.
Et là, on apprend ce matin par Radio-Canada que la Ville de Montréal va interdire l'usage de glyphosate sur l'ensemble de son territoire et ça va se faire d'ici la fin de l'année.
En effet, et le glyphosate est une des molécules qui revient de nombreuses fois dans la littérature scientifique qui traite, entre autres, de l'autisme pour différentes raisons. La raison pour laquelle la Ville de Montréal procède à cette interdiction-là, c'est sur la base du principe de précaution. Ils ont évoqué le fait que le glyphosate ait été considéré comme un cancérigène probable, même s'il y a des autorités européennes et américaines qui ont dit qu'on n'était pas exposé à des doses suffisamment fortes pour nous inquiéter. Reste que le produit a quand même été évalué lui-même comme étant un cancérigène probable. Alors, la Ville de Montréal dit, nous, on ne veut pas attendre que ça se précise plus. Il y a déjà des milliers de cas en cours à l'heure actuelle pour des cancers déclenchés potentiellement par le glyphosate. Donc, la Ville fait preuve du principe de précaution et va restreindre l'utilisation du glyphosate sur son territoire. Et c'est quelque chose qu'on peut saluer parce qu'en fait, en ville, l'utilisation du glyphosate est très facile à interdire. J'étais au Vieux-Port de Montréal, on voyait des gens qui arrachaient les mauvaises herbes sur les pavés unis le long des routes avec des outils. Pourquoi utiliser un pesticide puis mettre potentiellement en danger la santé de la population quand on n'a absolument pas besoin de le faire? Donc, les alternatives au glyphosate, aux herbicides à base de glyphosate en ville sont connues, sont nombreuses, sont très accessibles. C'est un geste tout à fait louable de la Ville de Montréal de faire ça dans un cadre urbain comme ça. Il n'y a personne qui peut réellement remettre ça en question en disant « oui, mais on en a absolument besoin pour désherber notre pavé uni. On peut utiliser des flammes, on peut utiliser des solutions salines, on peut utiliser des solutions à base d'acide acétique, donc de vinaigre, et on peut simplement arracher les mauvaises herbes qui poussent dans les cracks là où on ne les désire pas, ou encore mieux, laisser la biodiversité s'installer.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir. Louise Hénouetier, biologiste et docteur en sciences de l'environnement. Elle est à la Fondation David Suzuki. Et je le sais, j'entends déjà des commentaires et des réactions. D'abord, ça fait longtemps qu'on aurait dû se questionner sur les liens entre certaines maladies et l'environnement. On a beaucoup mis l'emphase sur notre santé, sur nos habitudes alimentaires, nos activités, tout ça, puis que ça influençait directement, et c'est vrai. Mais l'environnement joue aussi. Et je ne veux pas en faire un cas personnel, mais mon père est décédé des suites du Parkinson. Il y a fort longtemps. Et mon père était agronome. Visitait des terres agricoles, c'était sa job. Il a été exposé à des pesticides. Et on ne dit pas que ça donne la maladie, mais que si tu es prédisposé, ça se peut que ça la déclenche, par exemple. Dans le cas de l'autisme, c'est encore plus flou. Et je sais que les parents veulent savoir. Puis est-ce que souvent on a parlé des vaccins, on sait qu'il n'y a pas de lien, c'est pas vrai. Mais est-ce que la présence de ces pesticides dans l'environnement ont un effet? Il semble qu'il y a certaines études, c'est encore vague, c'est pas encore super documenté, mais qui tendent à vouloir illustrer un certain lien. 7h38.